Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui ma Maseret Yevamot et Daf Lamed Ret à la sixième ligne. Safek Viavam, Shebaou, Lachlok, Benirse, Sava. Donc, une personne qui est Safek, on ne sait pas si c'est le fils du premier ou du second. Et le père du défunt et le père du Yavam, enfin c'est la même personne, est décédé. Donc, il y a un héritage en jeu. Le Safek, il veut hériter en disant qu'il est le fils du fils qui est Niftar. Et le Yavam est dit, mais non, toi t'es mon fils, donc t'as rien à toucher. Safek Amar, Haïgava. Donc le Safek, il dit sur lui-même, Haïgava, cette personne, Bar Mitnao, moi je suis le fils du défunt. Et donc, je suis le petit-fils du grand-père décédé, mais j'ai une part d'héritage, la part de mon père qui est décédé. Donc, Palga Didi, donc j'ai la moitié. Yavam Amar, Adbari Didiat, toi t'es mon fils. Veltlar Velomidi. Toi tu touches pas, tu reçois rien dans l'héritage, puisque c'est moi l'héritier, et après mes 120 ans, t'hériteras peut-être, mais dans tous les cas, là tu n'hériteras rien du tout. Ave Yavam Vadai, Safek. On a une règle qui s'appelle En Safek Motimide Vadai, c'est-à-dire quand on a une certitude, un Vadai, et qu'on a d'un autre côté un Safek, le Safek ne va pas ébranler le Vadai, c'est-à-dire quand on se pose la question qui est héritier, on a d'un côté un fils du grand-père qui évidemment est héritier. Le fils du grand-père, quand je parle de grand-père, c'est par rapport à l'enfant. Donc le fils, il est évidemment héritier. On a un autre qui est Safek fils, Safek petit-fils. Donc il n'est que Safek. Donc on a une certitude face à un Safek, en Safek motimide vadai. Safek ou Bnei Yavam, si c'est le Safek ou le Bnei Yavam, Sheba ou l'Achlok, Benirse, Sava. Donc c'est ou des cousins, ou un oncle et ses neveux. Safek Amar, Hao Gavra, Barmitana, Palgadidao. Donc lui, il dit, moi je suis le fils du défunt. Donc moi, j'ai une part à la place de mon père. Donc, moi, la moitié est à moi. Ou Bnei Yavam, Amré, Achunat. Mais non, toi t'es notre frère. Et donc, donc on est à égalité, on partage à égalité. Palga de Kamodeleu, Chaklé. Donc, puisqu'il a dit j'ai la moitié, sur la moitié, lui il n'a pas d'argument. Ok, donc on leur donne. Tilta de Kamodeleu, eux sont d'accord de lui donner un tiers, puisqu'ils disent que c'était notre frère. Chakal, lui aussi va prendre. On parle, Rashi nous explique, on parle qu'il y a d'un côté, du côté de l'enfant défunt, du frère défunt, il n'y a qu'un seul enfant, celui qui est Safek, et d'un autre côté, il y a deux enfants. Donc, imaginons qu'il y a six Eovim, comme ça Rashi explique. La moitié, c'est-à-dire trois, revient à ces deux enfants-là. Le tiers, c'est-à-dire deux, revient à celui qui est Safek. Il en reste un en doute. Pachlou Danka, il en reste un. Danka, c'est un sixième. Avec la main, la moutal, Safek, Brolkin. Sur cela, il n'y a aucun argument qui peut trancher, donc c'est pour ça que c'est moitié-moitié. Safek, Viavam, Benirse, Safek. Safek, Viavam. Donc on a le Safek. Saba Viavam, le père. Donc on a la personne qui est décédée. Le Yavam qui a fait Iboum et après on se demande à qui est cet enfant. Et puis cet enfant est décédé sans avoir d'héritier. Et on a le grand-père, c'est-à-dire le père du Yavam qui est peut-être le grand-père de cet enfant. Et le Yavam qui se dispute l'héritage. Donc, ou alors, en autre cas, Saba et Safek Benirse Yavam. Saba, le grand-père. Safek, cet enfant sur lequel on a un doute. Benirse Yavam, on vient toucher l'héritage du Yavam. Et il n'y a personne d'autre qui peut hériter. Ave Maman Aoutal be Safek Becholkin. Donc tous les deux, ils sont à égalité dans le Safek, dans le doute. On ne sait pas. Est-ce que le Saba est dit, moi, écoute, c'est le fils de mon fils, c'est moi qui hérite. Le Yavam, il dit, non, si tu m'excuses, c'est mon fils. Donc c'est moi qui hérite. Donc on a un Safek. Maman Aoutal be Safek Becholkin. Ou alors Saba be Safek qui viennent Benirse Yavam. Le Saba, il dit, ah, c'est mon fils, c'est moi qui hérite. Le Safek, il dit, mais c'est mon père, c'est moi qui hérite. Donc, puisque c'est des arguments qui ne peuvent pas, d'abord, c'est appuyé sur rien du tout, c'est appuyé sur aucune certitude, mais c'est le maximum de l'argument de chacun. Et ça ne peut pas trancher, Mamon Amoutal le Safek Rolkin. C'est-à-dire, comme on l'a dit hier et comme on répète aujourd'hui, un argent qu'on ne peut pas trancher d'une manière ou d'une autre, eh ben, on partagera. On passe à la Mishnah. Shomer et Yavam. Une femme qui est en stand-by et qui doit faire iboum. Chez Naflula Nechassim, elle a un héritage. Modin bet Shammai bet Hillel, Shi Mocherel Venotenet ve Kayam. Cette Mishnah, en fait, elle est marquée aussi dans Maseret Ketubot, dans quelques mois. Et là-bas, ils sont à Machloket au sujet d'une femme qui est fiancée. Est-ce que c'est bien, c'est-à-dire fiancée, on parle de Kiddushin, celle qui a reçu la bague de Ariat Mekoudeshetli, elle est définie comme Meuruset, ce qu'on traduit fiancée, c'est pas les fiancées d'aujourd'hui. Et est-ce qu'elle est définie, d'après la Torah, comme une femme mariée, c'est-à-dire que si jamais elle a un rapport en dehors de son mariage, elle est chayavet mita. En tous les cas, c'est défini comme une femme mariée. Mais est-ce que la propriété de ses biens est passée chez son mari ou pas? tant qu'elle est fiancée, elle, les, ses biens ne sont pas la propriété de son mari. Là-bas, on nous dit, Shomeret Yavam, une femme qui attend le hiboum, et elle a des biens. Tout le monde est d'accord, Betchamé et Betilel, on verra cette marloka dans la Gemara. Shemochel venotenet, qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec. Elle peut les vendre, elle peut les donner, puisque c'est à elle, Vekayam, puisque c'est à elle. Donc, en vérité, et c'est le sujet de tout le daf, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à même demain, une femme qui est en stand-by de hiboum, quel est son statut en termes de propriété? Normalement, les propriétés d'une femme deviennent propriétés du mari. Certains s'appellent Nirsé Milo, d'autres Nirsé Watson Barzel, on ne va pas développer, mais il y a un statut de propriété. Le mari, évidemment, après, il devra rendre le bien lui-même, après, c'est-à-dire s'il meurt ou s'il divorce, mais il y a une propriété, un usufruit qui est, que le mari a le droit de prendre. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette femme, elle est propriété, entre guillemets, hein, ses propriétés sont propriétés de son mari ou pas? La Gemara, donc la Mishnah, pardon, dans la première étape, elle nous dit, elle fait ce qu'elle veut. Meta, si elle est morte. Et elle n'a pas fait Iboum, ni Khalitza. Mayase Bektubata. Qu'est-ce qu'on va faire au sujet de sa Ktuba? Ou Banechasim, Anechnasim, Veyotim, Ima. Et des biens qui rentrent et qui sortent avec elle, c'est ces fameux biens qu'elle donne à son mari, momentanément. Et quand ils se séparent, s'ils se séparent, elle les récupère. Ktubata, c'est l'argent qu'elle est censée récupérer si elle divorce ou si son mari meurt. Donc Maïa se biktubata ou venechasim ayon nechasim veotimima machloket. Bet shamay amrim yachloku yorshe abal imyorshe av. On partage. La femme a des héritiers, son père par exemple. Yorshe abal, c'est le yavam, c'est-à-dire elle était mariée. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a fait iboum, son mari est décédé. Donc c'est lui qui remplace le mari. Et donc, tous les droits de propriété qu'on avait sur les biens de la femme vont passer chez cet homme-là. Donc, puisque son statut, il est bancal, elle est ni mariée, ni pas mariée, moitié-moitié. D'un côté, ce sera pour la famille de la femme, d'un autre côté, ce sera pour la famille du Yavam, moitié-moitié. Mettez-le-moi, nechassim, mechaskatam. Les biens et l'aktuba, en vérité, c'est pareil, c'est-à-dire Yorshe Abal, puisque lui, il a, le mari, a un certain pouvoir sur ces biens-là, eh ben, ça restera entre ses mains. Nechassim, nechassim, ayotimima, becheskat yorshav, puisque elle, ces biens sont à elle, ils sont sous sa propriété à elle, elle ne donne que l'usufruit. Donc c'est pour ça que c'est les héritiers du mari qui vont les recevoir. On va plus s'expliquer dans la Gemara. Knasa, s'il s'est marié avec elle. Ari, qui je te l'école d'avoir, évidemment, c'est sa femme. Milvad, j'étais aktuba nirseba la rishon, c'est-à-dire que le Yabam ne s'engage pas à lui donner une ktouba sur son compte, c'est seulement une hypothèque sur les biens de son défunt mari. C'est là qu'elle a une ktouba, on expliquera ça demain. Maïshna Risha de l'Opligo, Maïshna Sefa de Pligé. Comme on a dit, la question c'est de savoir quel est le statut de cette femme en termes de propriété. Dans la Risha, on te dit, si elle a fait un héritage, alors elle peut faire ce qu'elle veut. Dans la Sefa, on te dit, d'après Bethilel, elle fait ce qu'elle veut, d'après Betchamay, c'est moitié-moitié. Dans la Gemara, quelle différence? Pourquoi est-ce que dans la Recha, elle fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire, et dans la Sefa, quand elle décède, alors on te dit, il faut partager, d'après Beth Shammai. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais en vérité, son statut de propriétaire, il est exactement pareil. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? On va voir, ça va être tout le Hamoud, trois réponses différentes, Oula, Rabba et Abaye, et on va les découvrir au fur et à mesure, et après on les révisera, parce que c'est assez compliqué. Amaroula. Recha, denaflak shehi aoussa. Dans la Recha, on parle d'un cas où elle a perdu son mari quand elle n'était que fiancée à son mari. C'est-à-dire que les liens du mariage n'étaient pas encore assez liés entre elle et lui. Et donc, quand elle, le père, qui était en stand-by de hiboum, c'est encore plus léger. Et c'est pour ça que ça va donner un statut spécial. Alors que Sefa, denaflak shehi neswa. Elle était déjà mariée à son mari. Pas simplement fiancée, mais coup d'achette, mais mariée après la coupa. Donc, les liens entre elle et son mari sont plus forts. Et donc, quand elle va se tomber en hiboum, ça va bien sûr être plus léger que quand elle était chez son mari, mais ça sera beaucoup plus fort que la Recha. La Gemara explique. Kassavaroula, zika tarusa, osa, kassafek arusa. C'est-à-dire, une femme qui était arusa, et maintenant elle n'a qu'une zika. Arusa, c'est celle qui a reçu la bague de fiançailles, de Kilushin. Zika, c'est celle qui attend, qui est zkuka, qui est dépendante du hiboum. Donc, Zikat Arusa, celle qui est dépendante du hiboum parce qu'elle était Arusa, elle est définie comme Safek Arusa. Par contre, Zikat Neswa, et par contre, c'est pareil, c'est la même chose, ça va en parallèle. Zikat Neswa, Safek Neswa, c'est-à-dire qu'elle a un statut quand elle est chez son mari. elle a un statut quand qui a un statut qui est plus léger, qui est plus qui est moins présent quand elle est chez son yavam, ça va baisser du niveau qu'elle était chez son mari. La Gemara explique zikat arusa osa. Zikat arusa osa safek arusa. Ça ne peut créer qu'un statut de safek arusa. Ni sakalat arvadai arusa. Si tu considères qu'une femme qui est en stand-by de Iboum, elle est définie comme arusa vraiment. Hein. Arrêt, il est marqué dans la Mishnah là-bas. Modim betilel shemochel venotelat kayemet. Dans notre Mishnah, il est marqué qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Donc quand elle est Vama, elle a reçu des biens, elle en fait ce qu'elle veut. Ve'atanan, pourtant, il est marqué dans Maseret Ketubot. Nafloan echassim shel itarsa. Quand elle était fiancée, elle a eu un héritage. Ou elle a trouvé l'argent, elle a gagné l'auto, ça change rien. Betchem erim timkor. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut vendre. Betchem erim lo timkor. Elle ne peut pas les vendre. Mais tout le monde est d'accord que Elou ve'elou, chez Macha, Kayam. Donc ce qu'elle a vendu, c'est oui, validé. Donc si tu me dis qu'elle a un statut de femme fiancée, pourquoi est-ce que dans notre Mishnah c'est marqué que si elle veut, elle peut vendre? Comment c'est possible? Elle a un statut qui est plus léger. Et c'est pour ça que dans la Resha, tout le monde est d'accord. Que puisqu'elle l'était, elle n'était pas à 100% mariée avec son mari. Elle était déjà légèrement, je le dis de cette manière pour qu'on le comprenne mieux. Évidemment, il y a des définitions un peu plus profondes que ça. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le mariage est beaucoup plus... était beaucoup moins avancée, beaucoup moins prononcée. Donc quand elle est en zika de Iboum, quand elle doit attendre pour faire un Iboum, c'est évident que son statut il est encore plus léger que ce qu'il était avec son mari. C'est pour ça qu'on lui dit, bon, bah, écoute, t'es propriétaire, t'es pour l'instant, ton mari n'a aucun droit sur tes biens. Et la shmamina, zika tarusa, ça fait karusa. Je comprends donc que cette attente de mariage, quand elle était fiancée à son premier mari, ça ne crée qu'un statut de safek. Zikat Neswa, quand elle était mariée, donc là le mariage il était validé à 100%, on sait ça fait que Neswa, ça va alléger par rapport à ce statut, parce que c'est que un Iboum, c'est que un stand-by de Iboum, ça n'est pas un Iboum. Nisat Kalatar Vadaï Neswa, si tu la considères comme mariée, Ari il est marqué, dans le Mishnah il est marqué que les héritiers du côté du mari et du côté de la femme vont partager, Vatalan, et pourtant elle est marquée. Une femme qui était mariée et qui a eu un héritage, elle s'est dit, bon, ben, je vais vendre la maison de mamie, elle la vend. Elle fait une vente, c'est validé, et 2 ans plus tard, ou 2 jours plus tard, le mari arrive, désolé messieurs, ça m'appartient. Eh ben, donc on annule la vente. Donc comment est-ce qu'une femme mariée peut vendre ses biens dans notre Mishnah? Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils se partagent entre eux? Alors on voit qu'il y a une propriété absolue sur le mari, du mari sur ces biens-là. Elle lâche mamina. Zikat Neswa, ça fait que Neswa, c'est pour cela que la femme va partager. Donc on a un statut d'après Oula. On a un statut de femme qui est en stand-by. Ce statut, il est plus léger que son statut de femme mariée. Ça dépend quel était son statut de femme mariée. Quand elle était Arusa, de toutes les façons, son statut était déjà assez léger. Quand elle est Zkuka, c'est-à-dire qu'elle est en stand-by, il est encore plus léger. C'est pour ça que tout le monde est d'accord qu'elle fait ce qu'elle veut, elle peut vendre ses biens. Il lui appartient à 100%. Par contre, quand elle était Neswa, son statut de propriétaire était déjà entamé, était déjà un peu abîmé, parce qu'elle était mariée. Alors c'est vrai que maintenant qu'elle est Zkuka, donc le statut de propriété, il est entre deux feux. C'est pour ça que Beth Shammai nous dit Erkloku, mais Beth Hillel nous dit qu'elle va rester, elle, propriétaire de ses biens, elle en fait ce qu'elle veut. Amar les rabbins. Rabbin, il demande à Oula, pourquoi est-ce que, d'après toi, on parle dans la Mishnah, dans la Resha, on parle d'un cas où elle était fiancée quand elle a perdu son mari, et dans la Sefa, on parle d'un cas où elle était mariée. Arrête, c'est quoi le fond de la discussion? Le fond de la discussion, c'est de savoir quelle est la propriété du mari sur ces biens-là. Si c'est ça la question, alors tu peux me parler d'un cas où la question est de savoir est-ce qu'il a une propriété sur l'usufruit. C'est-à-dire, quand elle est Arusa, bah évidemment, il n'a aucun droit. Donc il n'a aucun droit, c'est la Resha. Et quand elle est Neswa, la question n'est pas de savoir si elle est morte, quel est l'héritier et qui est-ce qui va hériter. Et là, on a marqué le Bachelet et Bethilel. La marloquette serait, est-ce que le mari a le droit de profiter de l'usufruit de ses biens ou pas? Donc, elle est en vie, au Hachem, tout va bien pour elle. Elle a des biens, encore mieux. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le mari, tant qu'il n'a pas fait Iboum, a le droit de profiter de ses biens ou pas? D'après Beth Hillel, non. D'après Beth Shammai, moitié-moitié. Pourquoi est-ce que, si ton explication est bonne dans la Mishnah, pourquoi est-ce qu'on a choisi de marquer la différence entre le moment où elle est vivante et le moment où elle est morte? Et là, Maraba. Rabba nous donne notre explication. Il dit, va, il dit, dans les deux cas, on parle de Naflak chez Neswa. Elle était mariée à 100% à son mari. Vezikat Neswa, ça fait que Neswa. Et le fait qu'elle était mariée et que maintenant elle est en stand-by, ça lui donne un statut de Safek Neswa, c'est-à-dire plus allégé. Recha de ihi kadima. Kdehi kaima, pardon. Avela ihi vadai, venhu safek. En safek motimete vadai. Dans la recha, on parle d'un cas où elle est vivante. Et donc la question et l'échange est entre la yevama et son futur mari. Eh, mais c'est moi qui dois toucher les locations de tous tes biens immobiliers, puisqu'on va bientôt se marier. Et elle lui dit, bah, t'as qu'à te marier avec moi, et quand tu te marieras, tu toucheras. Donc elle, elle a un argument. C'est quoi son argument? C'est qu'elle est propriétaire des murs. C'est vrai que l'usufruit, c'est toi qui vas l'utiliser. Moi, je suis propriétaire des murs. Moi, madame, je suis propriétaire des murs. Toi, t'es propriétaire, tu vas être propriétaire de l'usufruit, mais pour l'instant, c'est un safek. C'est-à-dire que ma propriété, elle est établie. Ta propriété, peut-être, puisque mon statut aujourd'hui, il est marié allégé. Donc peut-être que t'es propriétaire, peut-être que pas. Donc, en safek motzim devadai. On a une certitude, rien ne peut l'ébranler. Amène une preuve. Amène une preuve que tu dois recevoir. Mon statut, il n'est pas clair, donc tu ne touches rien du tout. C'est pour cela que dans la Recha de la Mishnah, tout le monde est d'accord qu'elle fait ce qu'elle veut avec ses biens. Sefa, dans le cas de la Sefa, Demeta, elle est décédée. Alalobaïn Lirash, Alalobaïn Lirash. On a donc des héritiers qui sont en train de se déchirer pour toucher les biens. Mais en vérité, ils sont tous les deux Safek, c'est-à-dire que personne n'a de propriété assurée sur les biens. Personne n'a fait main basse sur les biens. Et c'est pour cela que on a une safek et safek, et c'est pour ça que yachloku, d'après Bet Shammai. Bet Hillel nous dit que puisqu'on a un doute, ça va rester dans la propriété de la femme. Mais d'après Bet Hillel, d'après Bet Shammai, on aura moitié-moitié. Et tu vas bailler, ou le Bet Shammai, une safek, moitié, mais des badailles. Tu es en train de m'expliquer que la Recha de la Mishnah, elle affirme que la femme a tous les droits, puisque une safek, moitié, mais des badailles. Ça voudrait dire que Bet Shammai, qui disent clairement, on est d'accord avec Bet Hillel dans ce cas-là. Donc, il serait d'accord, d'après ton explication, avec la règle « En safek motive de alai ». Et pourtant, il est marqué « Nafal abayit alav alaviv, alav veal morishav ». Deux personnes qui sont dans une maison qui s'est effondrée. Ils sont en Ukraine, par exemple, il y a la guerre. Et ils sont la maison qui s'est effondrée sur eux. Maintenant, il y a une personne qui devait de l'argent, mais qui n'a aucun bien. Bon, bah quand il meurt, tant pis pour ceux qui lui ont prêté de l'argent. Sauf que son père, lui, est très très riche. Et son père, il est mort avec lui. Et évidemment, la question, c'est de savoir qui est mort en premier. Si c'est le père qui est mort en premier, bah, le fils, il est mort riche. Et donc, toutes les banques, etc., disent, bah, monsieur, passez la caisse. Alors, ils vont s'accaparer de tous les biens du grand-père. Mais les héritiers disent, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est notre père qui est mort d'abord, vous êtes foutus. Et après, il y a papy qui est mort aussi. Et puisque papy est mort après, nous, on hérite de tout. Donc, Nafal abayit alav alaviv, alav al morishav. Donc, si la maison est tombée sur lui, et sur son père, ou sur lui, et sur une autre personne qui peut le faire hériter, veillou alav ktuba tisha ba'al chov, et cette personne devait payer. Ou alors, la ktuba de sa femme, ou alors une dette. Et donc, la question, c'est de savoir. Yorsheha avomrim, les héritiers du père disent, aben metrichon. D'abord, notre père, il est mort. Vacha kachmetav, après, son père à lui est mort. Et donc, c'est l'embellie pour nous. Ba'al chov dit, non. Ha'av metrichon. D'abord, c'est le grand-père, votre grand-père qui est mort. Et donc, votre père, il était riche. Vachakar metaben. Et après, son fils à lui. Donc, votre père à vous est mort. Et donc, moi, aujourd'hui, au prochain, j'ai dû récupérer ma dette. Betchem, yomri merchloku. Ou bete l'orim anechasim becheskatan. Donc, Betchem, elle nous dit que, on va partager entre les héritiers et ceux qui ont les créanciers. Et Betila nous dit, nechasim becheskatan, c'est-à-dire, on a une certitude que les biens reviennent aux héritiers du père. Donc ça, c'est clair, c'est établi. Par contre, vous, les créanciers, peut-être oui, peut-être non. Donc, en safek motzim et devadai, et donc vous ne touchez à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Bet Shammai n'est pas d'accord avec la règle avancée par Bet Hillel, à savoir en safek motzim et devadai. Et donc, la Gemara demande à Abaye, demande à Rabba, pardon, comment est-ce que tu peux expliquer que d'après tout le monde, dans la Recha, on dit en safek motzim et devadai, la femme est propriétaire, le mari, le futur mari, et seulement peut-être, en safek motzim midevadai, on balaye l'argument du mari. On voit bien que Bet Shammai ne prend pas ça en considération. Répond la Gemara, vea chayosheha vadai. Pardon, c'est la question. Vea chayosheha vadai. Ou baal chov safek. Arrête, les héritiers, ils ont main basse sur, c'est sûr qu'ils sont héritiers. Alors que vous, peut-être que vous avez rien. Parce que, qui a dit que vous allez recevoir quoi que ce soit? Kaate, ça fait comme Timé des Valais. Donc, on voit bien qu'on fait moitié-moitié. Donc, on voit que le Safek a la capacité d'affaiblir le Valais. Pour la Gemara, les Kassavot, Betchamay, Shtar, Ahmed, les Gavot, Kegavoui, Damé. Le Baal Chov, il a un Shtar, il a le créancier, il a une reconnaissance de dette. Alors, c'est vrai qu'il va devoir aller au tribunal, faire une déposer une demande, etc. Mais Beit Shammai pense qu'il est considéré que Gaouida, mais c'est bon, il a un papier, c'est bon, ça va être validé. Et donc, autant toi, l'héritier, tu as une certitude que tu vas recevoir, autant moi, j'ai une certitude. Mais comme on a deux certitudes sur la même chose, bon, on est tous les deux à égalité, c'est vrai, on est tous les deux safek. Donc, puisque shtar a omed les gavot et gavouida, mais puisqu'il y a un shtar, le statut de l'héritier et le statut du créancier, ils sont exactement pareils. Ils sont tous les deux avec le même niveau de certitude qui, en fin de compte, crée un niveau d'incertitude pour les deux. Et donc, ça n'est pas un vadaï face à un safek. Au début, on pensait que c'était un vadaï face à un safek, parce qu'un héritier, bon, ben voilà, c'est un statut automatique. Alors que toi, qui a dit que tu vas ramasser? Mais non. Qui a dit que moi, je vais toucher? Ben, je t'ai remettre les gavot et gavouida, mais... Donc, toi, l'héritier, moi, on est exactement pareil. On ne sait pas qui est-ce qui doit recevoir. Donc, c'est vrai que tu as un statut qui est censé te donner automatiquement quelque chose. Mais moi aussi, mon statut d'avoir un papier dans les mains me donne automatiquement quelque chose. Donc, on est à égalité. Et c'est pour ça que, dans ce cas-là, Beit Shammai pense que Yachloku, Mina Temra, d'où est-ce que je sais qu'il existe cette règle-là de Shtar Omed Gavot Gavuidame, d'être marqué dans la Mishnah. Mais tout balayen Achelo Chatou. Une femme, le mari, qui l'a suspecté. Il lui a dit, écoute, ça me plaît pas, là, quand tu vas avec monsieur Antel, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et elle s'est isolée. Elle est sota. Elle doit, boire de l'eau qui va vérifier est-ce qu'elle est kshira ou pas. Il est marqué que si jamais Betou Baalel, les maris de ces femmes-là sont décédés, Achelo Chatou, les femmes n'ont pas bu cette eau, Maïma Meharirim, l'eau qui était avec, dans laquelle on effaçait le nom d'Hachem. Beit Shammai Urim, le Klot Ktubatan. Beit Shammai nous dit, elles peuvent, maintenant qu'elles ont perdu leur mari, et donc elles doivent récupérer la Ktuba, elles prennent leur Ktuba. Venan Shotot, elles ne peuvent pas boire, et elles ne le boivent pas. Beit Shammai Urim, Oshotot, l'on Klot. Ou elle boit, ou elle prend rien. Dans la Gemara, Oshotot. C'est-à-dire quoi? Il y a une possibilité qu'elle boit. Vevi, Eishet, Ishto, il y a marqué. Amar, Akhmana. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le mari qui te fasse la demande. Et donc, s'il n'est pas là, il n'y a pas de possibilité de vérification par cette boisson. Veleka, Ela, Mitor, Shelo, Shotot. Donc, Beit Hillel pense qu'elle ne touche rien du tout, et Beit Shammai pense qu'elle touche sa ktuba. Ve'acha demande la Gemara. Donc, la preuve que Shtar omet ligavot gavuidame, c'est d'ici. Dans ce cas-là, on a un safek. Est-ce que cette femme était mariée bekashrut à son mari, et donc il est décédé, elle touche la ktuba, ou si elle l'a trompé, on lui dit, écoute, tu l'as trompé, tant pis pour toi. Donc, on a safek où? Safek zanaï, safek lo zanaï. On ne sait pas si elle a eu un rapport interdit ou pas. Ve'karate safek motimide vadaï. Et tu vois bien que le safek, il a une capacité de débranler le vadaï, c'est-à-dire les héritiers du mari. On a un doute sur sa possibilité de recevoir son argent. Elle a la capacité de débranler la certitude que les héritiers du mari devraient recevoir. Forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, shmamina, je t'en remets les gavotes, c'est-à-dire que la femme, elle est à égalité avec les héritiers. Elle dit, moi, j'ai une ktuba. Moi, cet argent me revient. Vous dites que non, vous le prouvez. Donc, moi, je suis vadaï, comme vous. Et donc, c'est pour ça que je touche toute ma ktuba. Et c'est pas que je suis comme vous. C'est pas comme dans le cas précédent, on a dit Erloku. Ici, c'est pire, ou c'est mieux pour elle. Elle dit, moi, c'est sûr que c'est hypothéqué pour moi. Avant que vous touchiez quoi que ce soit, c'est sûr que sa dette envers moi, elle passe avant vous. Donc, moi, je reçois 100%. Vous n'avez pas le même niveau de certitude que moi, puisque moi, je reçois 100%. Et donc, c'est pour ça que moi, je touche toute ma ktuba. Donc, de là, on voit que Beit Shammai pense que Shtar omet ligavot gavuidame, le fait qu'elle a une ktuba, ce qu'on écrit dans un mariage, c'est une ktuba qui va hypothéquer les biens du mari, ça lui donne une certitude que cet argent lui revient, celui qui veut le prouver au contraire, la briout qui le prouve tant qu'il l'a pas prouvé, en safek motzim nevadai, elle reçoit sa totalité. Et donc, tout ça, c'est basé sur le fait que on considère que le Shtar est déjà gavoui, parce que si on ne considérait pas qu'il était déjà gavoui, qu'il était déjà comme s'il a encaissé, donc, elle aussi, elle n'aurait pas eu le droit d'encaisser quoi que ce soit, puisqu'elle est safek, à elle de prouver, c'est de recevoir quelque chose. Et là, forcément, c'est une certitude. Je t'en remets les gavotes, gavoui, damaï. La Gemara demande sur Abaye. Abaye, qui pense que la raison de Beit Shammai, quand il te dit que Metu Baalehen, c'est-à-dire que les maris sont morts, c'est la raison pour laquelle, c'est seulement parce que safek motim devadai, c'est-à-dire, d'après Abaye, lui, il pensait que Beit Shammai pense que bah, ça fait que motivé, voilà, l'autre meha, il aurait dû poser une question au lieu de quand il est venu attaquer Abaye. Pardon, quand Abaye est venu attaquer Rabba, il lui a dit, tu vois bien, Nafal Abaye Talav, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené une preuve de ce cas-là d'une femme qui a trompé, enfin, on ne sait pas si elle a trompé son mari, et on lui donne la Ktuba, arrête. Nous, on a expliqué qu'il y avait deux axes. Le shtar omet ligavot ligavuidame, le fait qu'on a une, on affirme que cette femme, elle a un pouvoir sur cet argent, et puis c'est ça qui va la rendre vadaï. C'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion que même d'après Bet Shammai, en safek motzi midei vadaï. Mais toi, d'après toi, Abaye, toi tu penses que safek motzi midei vadaï. Donc toi, tu me poses une question à Rabat, tu dis, mais tu vois bien que safek motzi midei vadaï. Ben, tu aurais pu ramener une preuve de cette Mishnah. Il y a marqué qu'une femme qui a un doute si elle a trompé son mari ou pas, donc c'est safek. Et les héritiers veulent récupérer l'argent. On dit non, elle doit prendre sa ktouba. Tu vois bien que safek motzi midei vadaï. La Gemara nous dit, va abayer l'autre vemea. Il aurait pu poser la question de cette Mishnah. Dilma ktouba tisha shane. On dit, la Gemara, peut-être que abayer, il n'a pas posé la question là-bas parce qu'il s'est dit peut-être que ktouba tisha shane. C'est-à-dire que quand une femme vient récupérer sa ktouba, alors on est plus permissif, mishum khina. Khina, c'est-à-dire qu'on voulait assurer que les femmes veuillent se marier avec les hommes. Et donc, on va leur donner une ktouba qui va protéger leur mariage. Mais si c'est compliqué pour recevoir l'argent, qu'à chaque fois qu'il y a un bruit ou quelque chose, on va dire, bon, madame, écoute, on a un doute, si on te donne, on dit, bon, bah, si c'est comme ça, moi, je ne vais pas me marier. Donc, c'est pour ça que, bien que, dans l'absolu, elle ne devrait pas récupérer sa ktouba, il est possible que Chachamim aurait instauré qu'elle récupère sa ktouba, mishum khina, pour plaire, pour que les maris puissent plaire à leur femme pour qu'ils se marient. Mais l'otve ktouba de matnitin. Dans la Gemara, oui, mais il aurait pu poser dans notre Mishnah. Il aurait pu poser dans notre Mishnah, il est marqué dans Seder Nashim plutôt que dans Seder Nezikin. La Mishnah de Nafala Bayit Alav, c'est une Mishnah dans Seder Nezikin. Dans Baba Kama, etc. Là-bas, c'est dans quoi d'ailleurs? Baba Batra. Donc là-bas, on parle de Baba Batra. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé plutôt la question de Seder Nashim? Dans notre Mishnah, il est marqué que si jamais elle est décédée quand elle était Shomiret Yavam, ils vont partager. Donc, t'as qu'à dire que dans cet enseignement, forcément, on voit qu'il y a un Safek qui est Motzi Midei Vadaï, puisqu'il est marqué dans notre Mishnah que elle est Safek. Comment est-ce qu'elle est Safek? Elle n'est pas sûre d'hériter. Elle n'est pas. C'est Yorshim, elle, pardon, son Safek. Et c'est Yerushimael, c'est-à-dire les héritiers du côté de la femme sont Safek, et ils peuvent hériter. On voit bien Yachloku, oui, on voit bien Yachloku, donc on voit qu'ils ont une possibilité d'ébranler la certitude. La Gemara nous dit l'opligé, parce que d'où est-ce qu'on voit ça? Je n'ai pas précisé. Ktouba de Matlitin, dans la Mishnah, et je l'ai laissé un peu de côté quand j'ai expliqué la Mishnah. Dans la Mishnah, il est marqué qu'on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait au sujet de la Ktouba? Non pas au sujet des biens, mais au sujet de la Ktouba. Alors, le sujet de la Ktouba, normalement, la femme, elle hérite de la Ktouba quand son mari meurt. Donc, apparemment, là, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait au sujet de la Ktouba? Qu'est-ce qu'on te dit? Bet Shammai dit Yachloku, Bet Hillel dit, ça reste dans la propriété de la femme. Donc, tu vois bien que chez nous, les yorchés de la femme, ils sont safek et ils ont un pouvoir sur le vadaï de l'héritage du côté du mari. Donc, safek motzimi de vadaï. La Gemara nous dit non, l'obligé. À ce sujet, il n'y a pas de marloquette. Les maîtres, ils sont d'accord que, au sujet, ils parlent pas d'Aktouba Bichlal. Ils parlent pas d'Aktouba. Au sujet d'Aktouba, ils sont d'accord que les Yorshim de la femme, c'est-à-dire son père, ou son père, on va dire, puisque le mari vient remplacer le Yavam, et le Yavam, dans ce cas-là, pardon, le Yavam vient remplacer le mari, et le mari n'a pas à payer une Aktouba quand il meurt. Donc, il n'y a pas d'Aktouba à payer. Donc, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'octuba à payer. Donc, l'obligé, il n'y a pas de marloquette à ce sujet. Et donc, tu n'as pas de preuve. Vélo, comment tu peux dire qu'ils ne sont pas marloquettes? Vaktané, pourtant, il est marqué. Meta, quand elle est morte. Maya, c'est biktubata. Benechassim, etzimima. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait au sujet d'octuba d'Enechassim. Et à ce sujet, met chami amrim, yachloku, metile amrim, etc. Donc, tu vois bien qu'au sujet d'octuba, il est marqué yachloku. Donc, il y a un pouvoir sur un safek, un argument safek, face à une certitude. Rikama. Meta, maya subektubata. Donc, on a dit, meta, quand elle est morte, qu'est-ce qu'on fait au sujet de sa ktuba? Ushvaka. On l'a laissé de côté, cette question, pour la fin. Et après, nechassim, nechassim, etzimima, à ce sujet-là, il y a une marloquette. Et behemet, dans la ktuba, c'est comme Bet Hillel nous ont dit, parce que Bet Hillel eux-mêmes disent, au sujet de la ktuba, il est marqué ktubata, bechoskat, yoshe abal, ils n'ont pas de ktuba à payer. Donc, il n'y a pas d'héritage. Donc, tout le monde est d'accord que la ktuba n'est pas partagée. Maravashi, matinitana medaika. J'ai une preuve de l'autre Mishnah que c'est ça. La lecture qu'on doit avoir, qu'il n'y a pas de marloquette sur la Ktouba des Katané. Il est marqué dans Beit Shammai, Yachloku Yorshe HaBaal, Im Yorshe HaAv. Les héritiers du mari vont hériter de la part de la femme avec les héritiers du père. C'est-à-dire que l'argent qui était censé revenir au père va revenir aussi au mari. Veloktane Yorshe HaAv, Im Yorshe HaBaal. Il n'y a pas marqué que les héritiers du père vont hériter de ce qui revient au mari. C'est-à-dire que ce qui revient au mari, c'est la Ktouba. Mais il n'y a personne qui pique sa part, non, qui prend un petit peu de sa part. Donc on voit qu'on ne parle pas de l'Aktouba. Au sujet de l'Aktouba, c'est évident que la femme ne reçoit rien du tout, ni elle, ni les héritiers. Donc pour l'instant, on a deux explications. On va en voir encore deux, enfin aujourd'hui une et demain une autre. Deux explications. Pourquoi est-ce que dans le début de la Mishnah, on considère que les biens lui appartiennent et dans la fin de la Mishnah, on considère qu'ils ne lui appartiennent pas? Première explication, oula. Ça dépend quand est-ce qu'elle était, quel était son statut avant que son mari décède, est-ce qu'elle était fiancée ou elle était mariée? Deuxième lecture, Rabba qui nous dit, ça dépend si elle est vivante ou si elle est morte. Si elle est vivante, en safek matim levalai, elle, valai, elle a un pouvoir, en safek matim levalai, mais si elle est décédée, on a deux héritiers qui se disputent l'héritage, ils sont tous les deux safek. Abaye Amar, Abaye nous donne une autre réponse. Recha, denaflula, kshehi shomerit yavam. Ça dépend quand est-ce qu'elle a hérité. Si elle a hérité quand elle était Shomeret Yavam, tout le monde est d'accord que, qu'est-ce que vous voulez chez elle? Elle n'a jamais été mariée avec lui. C'est sa propriété. Et donc, il n'a aucun droit sur ces biens-là. Par contre, Sefa, Denafloak Shitartav, Debal, elle était encore mariée à son mari, son défunt mari. Et à ce moment-là, le mort avait une certaine propriété. Et c'est pour ça qu'il y a une Machloket. Mais qu'à savoir Abaye, Yadok et Yada. Et Abaye pense que Yadok et Yada, c'est-à-dire que le pouvoir de ce mari, à ce moment-là, quand il est vivant, ils sont à égalité. C'est pour ça que quand il décède et qu'elle va chez le Yavam, ça régresse. Et puisque ça régresse, on va avoir donc plus de pouvoir pour elle que pour son mari. C'est pour ça que d'après Beit Hillel, elle va récupérer, ses Yerushim vont récupérer la totalité. Beit Shammai, eux pensent que non. Que quand ils sont mariés et qu'elle a hérité, à ce moment-là, le mari a plus de pouvoir. Et quand son mari décède, alors maintenant, évidemment, il y a moins de pouvoir de son ex-mari, de son mari défunt. Mais ils sont donc à égalité avec son nouveau mari, avec le Yavam, et c'est pour ça que Yachloku. J'ai un doute, est-ce que je continue ou pas? J'ai préparé cette partie, elle est liée. Bon allez, on va continuer. Amar le Rava. Si Béhémet, c'est comme tu as expliqué toi, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si elle a hérité quand elle était encore chez son mari, tout le monde est d'accord, le pouvoir du mari est plus fort que le pouvoir de la femme. Et donc, à ce moment-là, quand elle est encore avec son premier mari, il a plus de propriété. Et donc, quand le mari va décéder, ça va régresser un petit peu parce qu'elle est en stand-by de son nouveau mari. Donc, on partagera les biens 50-50. Et là, Idi va Idi, dans les deux cas, Denafulak Shei Shomeret Yavam. On parle dans les deux cas qu'elle n'a hérité qu'après avoir perdu son mari. Elle est en Shomeret Yavam, elle est en stand-by. Recha, Delo Avad Ba Mahamar. Dans la Recha, on te dit qu'elle est à 100% propriétaire. Il n'y a pas eu de Mahamar, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de Kiddushin. Sefa, Davad Ba Mahamar. La Sefa, où on va donner, un pouvoir, d'après Beit Shammai, au mari, c'est parce qu'il y a eu Mahamar, c'est parce qu'il lui a fait des kiddushin, et donc, ça lui donne un peu plus de pouvoir, et c'est pour cela que c'est moitié-moitié. Mais qu'à savoir, Rava, Mahamar, le Beit Shammai, osé vadaï, arusa, osé fek neswa. Beit Shammai, Rava pense que le Mahamar va donner un statut spécial à cette femme-là, c'est une vadaï, arusa, et une safek neswa. C'est-à-dire, vadaï, arusa, elle est considérée comme arusa, parce que l'itrot betsara, si on considère que il y a eu Mahamar, donc on les considère comme s'ils étaient mariés. Et donc, si jamais il y a une autre femme qui est la sœur de cette femme-là, par exemple, elle, tant pis, elle sera repoussée de Eboum, puisqu'on considère qu'il est déjà marié avec celle-ci. Mais ça fait que n'est-ce pas la Chalok Benechassim. Mais elle n'est pas considérée comme 100% mariée, et c'est pour ça qu'il y a partage au sujet des biens. Itmar Mishpeh de Rabbi Lazar Kavate de Rava, Itmar Mishpeh de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Kavate de Abaye. On a deux enseignements, un nom de Rabbi Lazar comme Rava et un nom de Rabbi Yossi bar Chanina comme Abaye. Ou bien Amar Rabbi Lazar Achim, on va faire une chazara 10 jours en arrière. Arrête, Amar Rabbi Lazar, Mahamar, le Beit Shammai, et nos connaît, et là, les trois Betsara Bilvad. La capacité et l'impact du Mahamar n'a qu'une capacité au sujet de repousser la Tzara. C'est-à-dire que si jamais D'après Beth Shammai, il y a eu Mahamar, donc il y a eu un contact qui est fait entre le Yavam et cette femme-là, donc ils sont comme s'ils étaient mariés. Donc si jamais il y a une autre femme qui est interdite avec cette femme-là, elle est repoussée, elle ne peut pas faire Iboum. Donc ça, on voit que ça ne donne aucun pouvoir au sujet du Kinyan Mamoni, au sujet de la propriété. Et pour, Jagma, tu as raison. Alors on ne va pas dire que Rabbi Lazar il a dit comme Rava, on va dire que Rabbi Lazar avait dit comme Abaye, et Rabbi Yossi Bar Hanina avait dit comme Rava. Oh Dilma, Viba Itema, pardon. Leolam le Tipur, tu n'as pas besoin de changer qui a dit quoi. Amar le Rabbi Lazar qui amri ana, comme moi j'ai dit que le Mahamar il était conséquent seulement par rapport à l'interdit de su Avam de se marier avec une Sarah, c'est seulement Delo Sagela Beget et la Debayen Amechalita. C'était simplement de dire que le Mahamar il était pas conséquent à 100% pour dire ça y est, cette femme elle est considérée comme si elle était mariée à ce Yavam, et donc si jamais ils veulent se séparer, on se suffit d'un get. Ce que je voulais te dire, sache que le Mahamar il est pas final, il y a besoin d'une Khalitza parce qu'on la considère pour l'instant comme si elle n'était pas encore mariée, donc elle est mariée mais elle n'est pas encore mariée. Mais je suis d'accord que l'Akhlok Ben Echassim Delokane Miyamri, est-ce que tu as entendu de mes paroles que le Mahamar n'avait pas la capacité de l'Akhlok Ben Echassim? Non. L'Akhlok Ben Echassim Delokane Miyamri, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de l'Akhlok Ben Echassim. En d'autres termes, d'après cette deuxième lecture, d'après Rabbi Elazar, c'est vrai que le Mahamar, il a une capacité restreinte. Mais il a une capacité autant pour repousser la Tzara, autant pour lui donner un certain Kinyan, et c'est pour cela que quand elle est morte, alors il pourra, même d'après Rabbi Elazar, comme Rava, hériter de ces biens-là, puisque le Mahamar lui a donné un certain Kinyan. Cette femme est entre guillemets plus ou moins mariée. On continuera demain, Bezrat Hashem. Ça va encore quelques lignes sur le reste de la Suga, mais bon, c'est quand même le Dafayomi, hein, parce que c'est pas les deux Dafayomi. Donc on s'arrête là. Donc on a la première partie, c'était encore deux cas, en vérité trois cas, voire quatre cas. Donc on avait Safek Veyavam qui viennent partager les biens du grand-père. C'était quoi la question? C'était de savoir est-ce que le Safek est le fils du grand-père ou le fils du père. Et donc, Maman Amoutal Be Safek, Cholkim, moitié-moitié. Safek ou Bnei Yavam, Shebaou L'Chlok Benirse Saba. On a dit que le Yavam te dit, moi je reçois la moitié. Donc sur l'autre moitié, il est d'accord que ça revient aux enfants, donc ils reçoivent la moitié. Eux sont d'accord de lui donner un tiers, donc ils reçoivent un tiers. La question était sur le dernier sixième. Dans ce cas-là, ils partageaient le dernier sixième en deux. Les deux derniers cas qui se ressemblent, Safek et Yavam, Benirse Safek, ou Sava et Safak, Benirse Yavam, Safek et Saba, Benirse Yavam. On avait dit que c'était Maman Amotal, Ben Safek, Rolkim. Dans la Mishnah, on va essayer de faire simple. On a deux cas. On a une Yevama qui a des biens, et on a dans la Recha, elle veut partager. Dans la Recha, elle fait ce qu'elle veut. Dans la Sefa, elle doit partager. D'après Beth Shammai, on a expliqué que la différence entre la Recha et la Sefa, c'était, il y a quatre explications au final. J'ai donné les quatre. J'ai continué avec Rava. La première explication, c'était Oula qui nous disait que ça dépendait quel était son statut, c'est-à-dire est-ce qu'elle avait été mariée à son premier mari ou est-ce qu'elle était que fiancée. Quand elle n'avait été que fiancée, tout le monde était d'accord qu'elle fait ce qu'elle veut. Quand elle avait été mariée, c'est là qu'il y avait une marloquette. Rava nous disait que ça dépendait de est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est décédée. Si elle est vivante, c'est elle qui vient défendre son propre patrimoine et elle a une propriété dessus, donc c'est un vadaï face à un safek. Un safek motivé des vadaï, donc c'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais quand elle est décédée, on a deux héritiers à égalité, 50-50. Donc c'est pour cela que ils vont partager. Troisième explication, Abaye nous dit que ça dépend quand est-ce qu'elle a hérité. Est-ce qu'elle a hérité quand elle était Yevama ou qu'elle a hérité quand elle était avec son mari? Si elle a hérité quand elle était Yevama, alors dans ce cas-là, il est évident que elle fait ce qu'elle veut. Mais si elle a hérité quand elle était chez son mari, alors puisque elle avait son mari avait un certain pouvoir à ce moment-là. Alors là, on a une marloquette à Beth Hillel et Beth Shammai. D'après Beth Hillel, bon, tout le monde est d'accord que ça rétrograde un petit peu. D'après Beth Hillel, comme ils sont à égalité quand ils sont mariés, ça rétrograde, il n'a plus aucun pouvoir, c'est elle qui aura tous les pouvoirs. D'après Beth Shammai, lui a plus de pouvoir, donc ça rétrograde, ils sont à égalité, donc c'est pour ça que Arkhloku. Rava lui dit le contraire. Il dit que c'est sûr que si jamais c'était chez le Yavam, si jamais elle a vérité quand elle était chez son mari, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que moitié-moitié. La marloquette, elle est quand c'est chez le Yavam, quand elle a hérité quand elle était chez le Yavam, et à Saba Mahamar, c'est-à-dire qui lui a dit arrête le coup de chatelier ou autre chose. Et donc, dans ce cas-là, on a une machloket, est-ce que le Mahamar, il lui a donné un certain pouvoir et donc moitié-moitié, ou le Mahamar ne lui a donné aucun pouvoir, et en vérité, c'est une machloket de Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle est la force du Mahamar d'affecter à Baruch Hashem? N'oubliez pas de faire Hazar et Fat Hazar pour ne pas oublier, et demain, Bezrat Hashem.